Imaginez un peu la scène. Vous venez de lâcher 100 000 euros dans une campagne publicitaire numérique.
C'est un beau budget, ouais.
Ouais, un très beau budget. Donc, vos visuels sont, enfin, ils sont parfaits, le ciblage est millimétré, la campagne est lancée. Et là,
Le grand saut.
exactement. Et là, le message disparaît le temps d'un battement de cils.
Ah ouais.
Juste parce que votre cible a fait glisser son pouce sur un écran. Vous savez, ce mouvement rapide-là.
Le fameux swipe, oui.
Voilà, le swipe. Et bam, 100 000 euros évaporés dans le flux infini des réseaux sociaux.
Ça fait mal.
Ça fait très mal. Et en face de ça, prenez un beau magazine, imprimé sur un papier bien épais, qui trône sur la table basse d'un décideur pendant, je sais pas, 3 semaines. On nous répète à longueur de journée que le papier est mort, que l'avenir est 100% virtuel. Mais bon, décortiquons tout ça.
Ouais, parce que c'est pas si simple.
C'est pas du tout si simple. Notre analyse d'aujourd'hui prouve très exactement le contraire. On va voir que les marques les plus redoutables font totalement l'inverse.
Oui, et je pense qu'il faut même aller plus loin que le simple fait de dire que le papier survit.
Ah bon?
Ouais. Le document que nous analysons aujourd'hui, qui est rédigé par Félicité Amania Ravincent.
La fondatrice de Radio Tom Tam Africa, c'est ça?
C'est ça, exactement. Eh bien, elle avance une thèse beaucoup plus radicale. En fait, l'idée n'est pas d'opposer le virtuel et le physique dans un espèce de match stérile.
Genre le vieux monde contre le nouveau monde.
Voilà. Les campagnes qui génèrent les meilleurs retours sur investissement aujourd'hui, bah, ce sont celles qui créent une ingénierie vraiment complexe entre les deux.
D'accord.
C'est ce qu'on appelle le concept de stratégie phygitale. Et la mécanique derrière ça, elle est redoutable.
Le phygital, donc, cette fameuse contraction entre physique et digital. Donc l'objectif de notre exploration aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre l'anatomie de cette stratégie.
Tout à fait.
Parce que avant de comprendre les rouages techniques de cette fusion, bah, il faut d'abord s'attarder sur les limites, on va dire, neuropsychologiques de chaque support.
C'est la base, oui.
Le numérique a des capacités indéniables, la source le souligne très bien, on parle de la trinité classique.
Attirer, tester et convertir.
Exactement. Attirer, tester, convertir, c'est chirurgical.
C'est chirurgical sur le plan de la distribution de la donnée, ouais.
Décor, nuance.
Bah, le texte rappelle les fondamentaux que nous connaissons tous, hein. La capacité de lancer les tests AB en temps réel, de segmenter les audiences selon l'âge.
La géolocalisation, tout ça.
Ouais, ou l'historique de navigation, l'algorithme sait exactement à qui afficher le message.
Ouais.
Mais il y a un angle mort massif que les spécialistes du tout numérique ignorent souvent, et que l'auteur met vraiment en lumière.
Qui est?
La déperdition cognitive.
Ah oui, ok.
Votre ciblage peut être parfait si le cerveau de l'utilisateur est en mode pilote automatique saturé par, genre, 5 000 autres messages dans la même journée.
Ce qui est notre quotidien à tous, en fait.
Bah ouais. Et du coup, votre annonce, même si elle est parfaitement ciblée, elle devient invisible.
D'accord.
C'est ce qu'on appelle la cécité publicitaire.
La cécité publicitaire, c'est marrant parce que c'est un peu le paradoxe du numérique. On n'a jamais été aussi précis pour atteindre une personne, genre on sait où elle habite, qu'elle mange, ce qu'elle aime,
Ouais.
mais on n'a jamais eu autant de mal à capter son attention réelle, plus d'une fraction de seconde. C'est un peu comme une application de speed dating, voyez?
Ah oui, c'est une bonne analogie.
Ouais, c'est rapide, c'est ciblé, mais on passe très très vite à la suite.
Exactement. Et c'est là que le papier, le fameux print, entre en jeu dans l'article.
D'accord.
Pas comme un support du passé, attention, mais vraiment comme un ancrage.
Une relation à long terme, pour filer ma métaphore. Ça s'installe, ça crée de la confiance. Mais du coup, est-ce que le numérique n'est pas devenu trop éphémère, rendant notre cerveau imperméable aux messages simples?
C'est exactement ça.
D'où le besoin vital du papier pour exister matériellement, en fait.
Ouais, et ce qui est fascinant ici, c'est la mécanique sensorielle qui s'opère.
Sensoriel.
Oui, le texte insiste beaucoup sur la dimension physique de l'imprimé. Le regard, le toucher. Quand vous prenez un support imprimé de qualité entre vos mains, vous sollicitez la mémoire haptique.
La mémoire haptique, donc liée au toucher.
C'est ça. Le poids du papier, sa texture, le grammage. Tout ça envoie un signal neurologique de permanence et de sérieux au cerveau.
Ah, c'est pas juste visuel.
Non, non, pas du tout. Contrairement au défilement frénétique sur un écran, la lecture d'un magazine ou d'une brochure impose un ralentissement. Vous êtes physiquement engagé, quoi.
Ouais, on s'assoit, on tourne la page.
Et ce ralentissement abaisse les barrières défensives du consommateur. Ça crée ce que l'auteur appelle un climat de confiance et de réassurance. Le message s'installe vraiment.
Je comprends l'argument sensoriel, je suis même assez d'accord. Mais bon, je vais me faire l'avocate du diable un instant.
Allez-y.
L'imprimé, historiquement, c'est lent, c'est statique, et surtout, c'est définitif.
C'est vrai.
Je veux dire, si on imprime 10 000 catalogues avec une erreur sur un prix, ou si l'offre n'est plus valable au bout d'une semaine,
La catastrophe.
ben on a juste produit du gaspillage, à très grande échelle. Alors que le numérique permet de corriger une erreur en deux clics. Comment l'article justifie ce risque inhérent au papier dans un monde qui change à la seconde?
Eh bien, c'est justement là que la stratégie figitale intervient pour résoudre ce problème structurel.
D'accord, comment?
On ne fait plus de l'imprimé statique.
Ah!
L'une des méthodes que la source détaille pour créer ce pont entre les deux mondes, c'est l'utilisation de QR codes dynamiques.
Dynamique.
Oui. Et la nuance technologique du terme dynamique est absolument cruciale ici.
Parce qu'un QR code classique, de base, c'est comme un tatouage.
Ouais.
Une fois que c'est imprimé, le lien qu'il contient est gravé dans le marbre. Si la page web meurt, le QR code renvoie vers une belle erreur 404.
Exactement. Et c'est ce qui rendait les premières générations de campagnes hybrides si fragiles, en fait.
D'accord.
Le QR code dynamique, lui, ne contient pas l'adresse finale. Non. Il contient une URL de redirection hébergée sur un serveur d'intermédiaire.
Oh, malin.
Ce qui veut dire que la marque imprime ses 10 000 catalogues physiques, mais depuis son tableau de bord numérique, elle peut changer la destination finale du QR code tous les jours si elle le souhaite.
Waouh, ok.
Ouais, le lundi, par exemple, le catalogue papier renvoie vers une vidéo de démonstration. Et le vendredi, pour un événement spécial, bah, le même catalogue imprimé renvoie vers une offre promotionnelle flash.
D'accord, donc le support physique gagne l'agilité d'une bannière web, en fait.
C'est tout à fait ça.
C'est une architecture fascinante. En fait, le support papier devient une sorte de porte magique, ouais, une porte matérielle solide installée dans le monde réel.
Ouais.
Mais l'entreprise garde le pouvoir de changer la pièce qui se trouve derrière cette porte à tout moment.
C'est une excellente image.
Et l'article évoque aussi la réalité augmentée, non?
Oui, tout à fait.
J'avoue que sur ce point, je suis toujours un peu sceptique.
Ah, pourquoi?
Bah, on nous vend la réalité augmentée comme la révolution ultime depuis des années.
C'est vrai.
Et pourtant, ça ressemble souvent à un gadget pour faire apparaître un petit personnage en 3D sur une boîte de céréales. Enfin, c'est mignon, mais...
Ouais, je vois. Si on la considère uniquement comme un effet waouh, oui, c'est un gadget.
Voilà.
Mais le texte aborde la réalité augmentée sous un angle utilitariste.
C'est-à-dire ?
Il ne s'agit pas de divertir pour divertir. Imaginez par exemple une entreprise industrielle qui vend des machines extrêmement complexes.
D'accord.
Au lieu d'imprimer un catalogue de 500 pages avec des schémas techniques complètement illisibles...
Qui finit à la poubelle en général.
Exactement. Eh bien, elle imprime une brochure très épurée, très premium. Le client scanne la page et l'objet apparaît en 3B sur l'écran de son téléphone. Et là, il est démontable, pièce par pièce.
Ah ouais, d'accord. C'est utile.
Très utile. Le papier sert de déclencheur de confiance et de support de haute qualité. Et la réalité augmentée, elle, prend le relais pour fournir la profondeur d'informations techniques qui aurait surchargé la page.
Bien sûr. Les deux supports compensent leurs faiblesses respectives.
Voilà.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si je comprends bien la dynamique, là, le mouvement se fait du monde physique vers le monde numérique.
Oui.
On a un catalogue, on le scanne, on atterrit sur un site. Mais est-ce que cette boucle figitale fonctionne dans l'autre sens? Genre, du web vers le papier.
Ah oui. Et c'est probablement la partie la plus pointue de la stratégie décrite par l'auteur.
Vraiment?
C'est ce qu'on appelle le retargeting multicanal.
Bon, on connaît tous le retargeting classique sur le web.
Oui.
Vous regardez une paire de chaussures sur une boutique en ligne, vous fermez la fenêtre sans acheter.
Et là, la magie d'Internet opère.
Voilà, ces mêmes chaussures vous traquent sur tous les autres sites que vous visitez pendant un mois grâce aux cookies. C'est efficace, mais c'est devenu très banal.
C'est vrai. Comment on transpose ça dans le monde physique? C'est ça que je me demande.
Eh bien, par une automatisation très poussée. On connecte les bases de données clients, les CRM, à des centres d'impression numériques.
Attendez, comment ça marche en pratique? La source explique que la démarche commence en ligne. Un visiteur navigue sur votre site, il configure un produit, montre un intérêt fort, mais il abandonne son panier.
Classique.
Au lieu de simplement le bombarder de bannières web qu'il va ignorer ou que son bloqueur de publicité va masquer, le système fait le lien entre son profil numérique et son adresse postale.
À condition d'avoir cette donnée, bien sûr.
Évidemment, via un compte client, par exemple. Et là, dans les 48 heures, une presse numérique automatisée imprime une carte postale personnalisée.
Waouh !
Pas un prospectus générique, attention, une carte avec son prénom et la photo exacte du produit qu'il a consulté.
Et elle est postée physiquement ?
Attendez, le processus est entièrement automatisé de bout en bout.
De bout en bout. Le clic sur le site web déclenche littéralement l'impression d'une page physique dans une usine quelque part.
Absolument sans aucune intervention humaine.
C'est fou.
Ouais. Et le client reçoit cette carte postale chez lui quelques jours plus tard. Et psychologiquement, l'impact est sans commune mesure.
Bah oui, j'imagine.
Au lieu d'une énième notification numérique, il reçoit un objet tangible qui lui adresse un message hyper pertinent. C'est l'alliance parfaite entre la puissance algorithmique d'Internet et la chaleur de la relation postale.
C'est brillant sur le plan stratégique. Franchement, je suis impressionnée. Mais mettons-nous à la place d'un directeur financier.
À l'argent.
Toujours. Le grand drame historique de la publicité papier, c'est l'absence d'attribution.
Oui.
Il y avait John Wanamaker qui disait à la fin du 19e siècle une citation très connue. Il disait « Je sais que la moitié de mes investissements publicitaires est gaspillée. Le problème est que je ne sais pas de quelle moitié il s'agit. »
Exactement.
Sur Internet, par contre, chaque centime est tracé. Si j'envoie une carte postale physique, comment je prouve à mon conseil d'administration que c'est bien elle qui a généré une vente ?
Eh bien, la réponse est dans l'intégration des données. Et c'est tout l'enjeu du Figital. L'article est catégorique là-dessus.
C'est-à-dire ?
La data rencontre enfin l'encre. Le support imprimé d'aujourd'hui est mathématiquement mesurable.
D'accord.
Félicité à Maneyara Vincent liste d'ailleurs plusieurs indicateurs de performance clés. Le suivi ne repose plus sur des sondages d'opinion ou des estimations de trafic en magasin.
Mais concrètement, comment on traque ce bout de papier ? C'est génial sur le papier, littéralement. Mais comment on prouve que quelqu'un m'a franchi cette porte magique ?
En rendant action mesurable via le numérique, tout simplement. Si on reprend notre exemple de carte postale,
ouais.
Le QR code imprimé dessus est unique à la campagne ou même unique à la personne.
Un QR code par personne.
Exact. Lorsqu'il est scanné, le serveur enregistre l'heure, la localisation et le lit immédiatement au profil de l'utilisateur.
D'accord.
Et si l'entreprise ne veut pas utiliser de QR code, elle imprime une URL dédiée, courte, ce qu'on appelle une vanity URL, qui n'est communiquée nulle part ailleurs que sur ce support papier précis.
Ah, donc si les gens tapent cette adresse, on sait qu'ils viennent du courrier.
Exactement. Tout le trafic qui arrive sur cette page spécifique est donc, par définition, attribuable à 100% à la campagne d'impression. On peut ainsi calculer un véritable coût d'acquisition client, le CAC, pour le papier.
Et au centime près.
Au centime près.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond ? Parce qu'en vous écoutant, on a l'impression d'une machinerie super lourde.
Oui, ça peut paraître intimidant.
Avec des CRM interconnectés à des rotatives numériques, des algorithmes de suivi.
Mm-hmm.
On pourrait facilement penser que ce niveau d'ingénierie est réservé aux mastodontes de la Silicon Valley ou, je sais pas, aux grandes marques de luxe. Mais l'article soutient le contraire, c'est bien ça.
C'est une des thèses fortes du document. L'auteur démystifie cette technologie pour la rendre accessible à tous.
Vraiment à tous.
Oui, l'architecture Figital est parfaitement modulable et s'applique aux structures locales. La barrière à l'entrée technologique a drastiquement chuté ces 5 dernières années.
Prenons un exemple de proximité pour bien comprendre, pour nos auditeurs.
D'accord.
Imaginons une salle de sport indépendante qui vient d'ouvrir dans un quartier. Elle n'a clairement pas les moyens d'automatiser des envois postaux hyper personnalisée depuis son site web ?
Non, bien sûr.
Comment elle applique cette stratégie Face to JIT ?
Elle le fait à son échelle, mais avec la même logique d'orchestration.
C'est-à-dire ?
Eh bien, cette salle de sport fait imprimer des flyers de très bonne qualité.
Mm-hmm.
Ils sont distribués dans les boîtes aux lettres d'un rayon de, disons, 2 km. Ce flyer contient un QR code dynamique qui propose une semaine d'essai gratuit.
Ok, classique.
Oui, mais là où ça devient intéressant, c'est que lorsque les habitants scannent le code, ils atterrissent sur une page web de la salle de sport pour s'inscrire.
Ouais.
Et à ce moment précis, la salle de sport récupère la donnée de navigation.
Ah, le fameux pixel de tracking.
Exactement. Même si la personne ne s'inscrit pas tout de suite, la salle peut désormais recibler spécifiquement ces personnes-là sur les réseaux sociaux.
D'accord.
Le papier a servi de filet de capture physique pour nourrir une campagne numérique très ciblée et très peu coûteuse. Le retour sur investissement devient limpide.
C'est redoutable. En fait, on utilise le papier pour briser la glace dans le monde réel et le numérique pour conclure la vente dans la durée.
C'est un super résumé.
Mais bon, ça demande une rigueur d'exécution impressionnante. Il suffit pas d'agripper un QR code sur une affiche moche au dernier moment pour dire « c'est bon, on fait du Figital ».
Ah non, pas du tout. Si on relie cela à la vue d'ensemble, c'est là que réside le plus grand risque d'échec.
Lequel ?
L'incohérence. Le texte insiste lourdement sur l'idée d'écosystème. Juxtaposer des supports n'a aucun sens si l'expérience utilisateur est fracturée.
Ouais, il faut que ce soit fluide.
C'est l'approche que développe précisément Radio Tam Tam Africa. En tant qu'agence, ils ne se contentent pas de fournir de l'imprimé d'un côté et du web de l'autre.
Ils font quoi alors ?
Ils construisent des parcours hybrides où la réactivité du digital la force d'ancrage du print et la visibilité des réseaux sociaux s'entremêlent de façon complètement cohérente.
D'accord.
Et l'article mentionne même l'intégration de la radio dans cet écosystème.
La radio, c'est super intéressant de voir un autre média, on va dire traditionnel, s'intégrer dans cette boucle de performance.
Ouais.
Mais comment on articule la radio, qui est vraiment le média de l'instant par excellence, avec la permanence du papier et la précision du web?
En assignant un rôle spécifique à chaque point de contact dans le tunnel de conversion.
Ok, expliquez-moi ça.
Dans l'écosystème décrit, la radio agit souvent au sommet de l'entonnoir.
Pour se faire connaître?
Voilà. C'est un média de masse, très réactif, qui va générer l'alerte et la notoriété. Le spot radio crée l'urgence émotionnelle et invite à l'action immédiate.
Du genre « Allez vite sur notre site internet ».
Exactement. Le numérique prend ensuite le relais pour capter l'intérêt, capturer la donnée de ce prospect. Et enfin, le print, que ce soit un catalogue reçu par la poste ou un beau document remis en main propre, vient sceller la transaction.
En apportant la preuve matérielle.
Oui, le sérieux et la confiance. Chaque canal fait ce pour quoi il est naturellement le meilleur.
L'orchestration est vraiment impressionnante. Mais je dois poser la question qui fâche.
Allez-y, je suis prêt.
Si on observe tout ce parcours depuis la perspective du consommateur.
Ouais.
J'entends une publicité à la radio, je vais voir le site web depuis mon téléphone, mais je ne donne pas mon nom, je ne remplis aucun formulaire, et 2 jours plus tard, je reçois un catalogue imprimé dans ma boîte aux lettres, physique, avec exactement le produit que j'ai regardé.
Oui.
Il y a un moment où la frontière entre le parcours client ultra personnalisé et la surveillance de masse digne d'un roman dystopique devient très très fine, non?
Je vois tout à fait ce que vous voulez dire.
Comment les marques évitent-elles de franchir cette ligne et de terrifier leurs prospects? Parce que moi, ça pourrait me faire un peu peur.
C'est un point névralgique. Et bien que le texte source ne fasse pas un traité juridique sur la réglementation des données, il nous donne la clé stratégique pour désamorcer cette sensation d'intrusion.
Quelle est cette clé?
C'est la pertinence associée à la valeur perçue.
La valeur perçue?
Oui. Si le courrier physique que vous recevez ressemble à un tract bas de gamme,
le truc imprimé sur du papier tout fin et brillant.
Voilà. Vous allez le percevoir comme du spam intrusif, et l'effet sera désastreux. Vous vous direz juste comment ils ont eu mon adresse, ces forceurs.
C'est ça.
En revanche, si vous recevez une pièce imprimée haut de gamme, avec un beau design, qui répond exactement à un problème que vous cherchez à résoudre,
la friction disparaît.
La friction disparaît. Le fait qu'une marque ait pris la peine de dépenser de l'argent réel pour fabriquer un bel objet physique, et vous l'envoyez, c'est perçu par le cerveau humain comme une preuve de respect.
Ah, c'est carrément un changement de paradigme.
Tout à fait.
Donc l'effort matériel de la marque devient une monnaie d'échange pour justifier l'exploitation des données. Si l'objet physique est beau et utile, on pardonne en quelque sorte le ciblage algorithmique qui a permis son envoi.
C'est exactement la mécanique de la crédibilité telle qu'elle est exposée par l'auteur.
C'est fascinant.
Le digital est par nature gratuit et infini à dupliquer. Le papier, lui, coûte cher. Il pèse lourd, il implique une vraie logistique.
Une usine, des facteurs.
Exactement. Quand une marque utilise le papier intelligemment, elle démontre littéralement qu'elle a investi dans la relation avec vous.
Bon, alors, pour synthétiser un peu les enseignements majeurs de notre exploration d'aujourd'hui, le constat est sans appel. L'idée de choisir entre le camp du digital et celui du print est non seulement dépassée, mais stratégiquement suicidaire, en gros.
C'est le terme.
Votre présence numérique est votre radar et votre filet de capture. C'est elle qui teste, qui trouve l'audience avec une précision inouïe et qui génère la data immédiate.
Oui.
Mais le papier est la fondation de l'édifice. C'est l'encre matérielle qui fixe l'attention, qui contourne la fatigue numérique et qui assoit la crédibilité dans la mémoire physique du consommateur.
Exact.
Donc en 2026, la question n'est plus de savoir quel canal gagne, mais avec quelle fluidité vous arrivez à faire passer un client de votre affiche dans la rue à son écran de smartphone, puis de son panier web abandonné à sa boîte aux lettres.
C'est ça.
C'est vraiment la maîtrise de ce pont digital.
Et cela soulève une question importante pour clôturer notre réflexion d'aujourd'hui.
Ah !
Une pensée qui prolonge naturellement les arguments de notre source.
Je vous écoute.
Le texte de Radio Tam Tam Africa martèle que le papier apporte une présence matérielle et une forme de vérité.
Oui, on l'a vu.
Or, nous entrons de plein pied dans l'ère de l'intelligence artificielle générative.
Ah oui, vaste sujet.
Une IA peut aujourd'hui générer 10 000 publicités visuelles, des textes, des sites web entiers en une seule seconde.
C'est vrai. et sans aucun effort.
Le web est en train d'être inondé de contenus synthétiques, artificiels et virtuels, où tout est faux ou presque.
Ce qui donne vraiment le vertige quand on y pense. La rareté numérique n'existe plus du tout.
Précisément, face à cet océan d'illusions numériques générées par des machines, posez-vous cette question.
Laquelle ?
Est-ce que le support physique ne va pas devenir la preuve absolue d'authenticité ?
Ah !
Recevoir un magnifique document imprimé, relié intelligemment à l'écosystème numérique via une stratégie phygitale,
ouais.
Eh bien, ça pourrait bien devenir le nouveau certificat d'humanité des entreprises.
Le certificat d'humanité, c'est un concept fort.
Ce sera la preuve ultime qu'une marque est réelle, qu'elle a une substance matérielle et qu'elle n'est pas juste une coquille vide générée par un algorithme à l'autre bout de la planète.
C'est super intéressant.
L'encre et le papier pourraient vraiment redevenir le symbole ultime du luxe et de la vérité.
Le papier comme ultime rempart contre les hallucinations algorithmiques, eh bien, c'est une réflexion magistrale pour terminer cette analyse.
Merci.
La prochaine fois que vous croiserez une affiche, une brochure ou l'un de ces fameux QR codes dynamiques, arrêtez-vous un instant. Observez vraiment l'ingénierie invisible derrière.
Ouais, regardez au-delà du papier.
Demandez-vous comment cette marque tisse sa toile entre l'objet physique que vous touchez et les bases de données qui analysent vos besoins. Merci de nous avoir suivis dans cette plongée au cœur de la stratégie phygitale. Prenez le temps d'observer le monde publicitaire autour de vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle exploration. Gardez l'esprit curieux!